Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous.
Bonjour Olivier, bonjour Monsieur Sureau.
Eh oui, Monsieur Sureau, François Sureau, avocat écrivain qui vient de publier « Sans la liberté » aux éditions Gallimard, vient dans Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques. Avec Catherine Ney, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patou, il y a une émission qui n'a prévu aucun sujet sur Xavier Dupont de Ligonnès et qui serait très très contente d'apprendre que ça n'est pas lui et que les chaînes info auraient dû y réfléchir à deux fois avant de se mettre des heures et des heures en spécial sur ce qui de toute façon ne le méritait pas. Et Blanc s'est envoyé. Canteloup derrière, ça va être bien aussi.
Allez, le débat sur l'immigration, c'est donc ouvert à l'Assemblée. Emmanuel Macron, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez une mesure concrète à nous annoncer?
Oui, écoutez, je vais, concernant l'immigration, je vais vous parler très franchement. Je voulais renvoyer Christophe Castaner dans son pays. Le problème, c'est qu'il est français.
Alors, les boulettes s'accumulent hein, pour le ministre de l'Intérieur, les fumées non toxiques à Rouen, l'invasion de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le drame de Steve à Nantes. Maintenant, les déclarations sur le terroriste non identifié en tant que tel.
Écoutez, Madame Julie, ça va, on ne va pas passer en revue toutes les boulettes de Christophe Castaner.
Hein. Est-ce que vous allez vous passer de Christophe Castaner, franchement?
Mais écoutez, je souhaitais m'en séparer, mais je ne peux plus.
Vous ne pouvez plus, pourquoi?
À cause de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti.
Quoi?
Mais écoutez, ils ont demandé sa démission. Si je le dégage, j'aurai l'impression de leur obéir. Ah. C'est malin, bande de cons, sans le savoir, vous êtes sur Castaner.
C'était donc Nicolas Canteloup, voyez, sa merveilleuse imitation d'Emmanuel Macron, mardi dernier. Maintenant, on va y revenir tout à l'heure sur... l'attentat à la préfecture de police de Paris et derrière les déclarations sur la lutte contre la radicalisation. Mais puisqu'il nous parlait d'expulser Castaner, évoquons d'abord cette question de l'immigration et demandons à François Sureau si, sur ce sujet aussi, il estime qu'il y a un vrai recul des libertés ou si ça se passe plutôt ailleurs.
Je trouve que ce n'est pas une question de liberté. Je vais me séparer là de l'école no border, comme on dit. C'est-à-dire que, en matière de liberté, je dois dire que je suis peu porté à remettre en cause le principe de base selon lequel un État, surtout une démocratie, par la voix de ses représentants autorisés, a la liberté de choisir qui il accueille sur son propre sol et qui il refuse d'accueillir sur son propre sol. Réserve faite d'une partie particulière que vous connaissez comme moi, qui est le droit de l'asile, puisqu'à la fois la Constitution nous fait obligation d'accueillir ceux qui sont persécutés à raison de leur action en faveur de la liberté, d'une part, et d'autre part que nous avons signé la Convention de Genève, qui est un texte international qui s'applique à nous. Réserve faite de la question de l'asile, je pense qu'un État a le droit de choisir qui il accueille et qui il rejette. Ayant dit ça, je suis quand même frappé de quelque chose qui ne me paraît pas absolument sérieux, et à bien des égards, il me semble que nous sommes dans les temps de l'amateurisme sur des sujets extrêmement graves. L'immigration n'est pas véritablement un sujet de débat, puisque, au fond, tout le monde convient qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, réserve faite des problématiques de l'asile, et pourtant ce sont des débats qu'on organise, dont on voit très bien en quoi ils ne vont pas arriver à régler grand-chose. Et surtout...
Attendez, je vais vous arrêter là, parce que Catherine, vous n'êtes pas d'accord avec lui, j'imagine, quand il dit que l'immigration n'est pas un sujet de débat.
C'est un sujet de débat et on a vu que lorsque le gouvernement lance un débat à l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas là. D'ailleurs, alors que c'est un sujet de débat et en tous les cas, les Français, pour beaucoup de Français, c'est un sujet de débat, alors, c'est un sujet qui les préoccupe beaucoup.
Et oui, sur lequel il y a une division quand même nette entre une partie de la gauche qui reste soucieuse d'un accueil assez large d'immigrés. Et la droite, alors particulièrement l'extrême droite, qui dit qu'il faut carrément tout arrêter. Vous vous dites que ce n'est pas un sujet de débat, c'est un débat quand on donne des positions, on s'y tranche.
Je vais être plus précis. Je vais être plus précis. Ça n'est pas un sujet de débat dans la mesure où personne ne pense sérieusement qu'il existe des moyens pratiques, à part la construction d'un mur à Vintimille ou l'organisation de charters hebdomadaires pour renvoyer chez eux les immigrés irréguliers. Personne ne le pense et ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Donc je comprends que les députés s'abstiennent d'assister à des débats qui n'ont à proprement parler aucun sens pratique.
Maintenant, personne ne le pense, sauf Trump, président des États-Unis avec le Mexique, sauf Marine Le Pen.
Voilà,
sauf...
mais comme on reste quand même un pays un peu civilisé, je pense que la très grande majorité des gens ne veulent pas établir un mur à Vintimille ou organiser des charters hebdomadaires. Maintenant, ce qui me frappe est une chose différente. Je suis frappé à chaque fois de voir que cette problématique de l'immigration, faut-il la restreindre, si oui, comment, etc., est en fait invoquée pour camoufler une question beaucoup plus difficile, qui a à voir avec l'islamisme, qui a à voir avec le terrorisme, qui a à voir avec une forme d'incivilité républicaine au sens large, qui est le problème apparemment posé par l'existence de cultures étrangères et non pas de l'immigration elle-même. Ce qui est très frappant dans cette affaire, c'est qu'en fait, on parle d'immigration alors qu'on veut parler d'islam.
Oui.
Qu'on nous annonce depuis pratiquement deux ans qu'on va tenir un discours sur l'islam politique, l'islam républicain, etc., et qu'on ne parvient pas à le tenir. On ne parvient pas à le tenir, et donc on parle d'immigration, c'est-à-dire c'est une manière de parler d'une chose pour parvenir à ne pas parler d'une autre. Et ça, franchement, ça ne me paraît pas correspondre aux catégories d'un débat conceptuellement acceptable.
Oui, et surtout, là, il y a beaucoup de gens en France aujourd'hui, et les derniers événements qui viennent de se passer à la préfecture de police les renforcent dans leur conviction que le terrorisme, c'est l'islam politique, et donc tout. Donc il y a un sentiment, il y a la suspicion.
Oui, alors je trouve qu'il est également du devoir, malgré tout, des gouvernants d'appeler à une certaine forme de discernement, car il y a une chose qui est claire, c'est que la plupart des terroristes qui ont ensanglanté le sol parisien en particulier n'étaient pas des étrangers au sens propre, et que par exemple l'assassin de la préfecture de police n'était pas davantage un étranger.
Oui, mais pour
lui-même un immigré.
Mais c'est des musulmans.
Voilà, et donc, alors là, on arrive...
Ce débat porte exclusivement sur l'immigration.
On arrive au cœur de la question qui est du fait de l'islamisme terroriste radical, appelons-la comme on veut, à condition de l'appeler franchement, se pose la question des moyens de lutter contre la radicalisation, des moyens acceptables et des moyens inacceptables. On y revient dans quelques instants.
Europe 1, Mediapolis.
De 10h à 11h, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney qui reçoivent ce samedi l'avocat et écrivain François Sureau.
Oui, alors comment lutter contre la radicalisation? Ça, c'est un vaste problème. Certains ont des idées, par exemple Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, que vous allez écouter.
Il faut que ce soit un motif de licenciement possible et que le licenciement ne soit pas annulé par le juge. Mais vous savez, la radicalisation, ça se prouve par la fréquentation d'une mosquée salafiste, ça se prouve par un certain nombre de comportements, refuser de serrer la main à une femme.
Oui, mais enfin, refuser de serrer la main à une femme, il n'y a pas que...
Je suis effaré de ce que je viens d'entendre. D'abord, sur le terme de radicalisation, je suis effaré à plusieurs titres. D'abord, sur le terme de radicalisation. Nous rentrons progressivement depuis 20 ans dans une idée absolument archaïque et contraire à toutes nos normes, selon laquelle un type de comportement social, même non violent, est susceptible de déboucher nécessairement sur un acte terroriste. Eh bien non, ça n'est pas vrai. On peut avoir une pensée radicale, et même absolument radicale, et ne pas avoir envie de poser des bombes. Deuxième chose, qui me paraît très caractéristique, on ne peut pas déduire d'un simple comportement social, si blâmable nous paraît-il, l'idée qu'on irait immédiatement passer à l'acte et rafaler dans les rues. Enfin, je connais des gens très bien qui ne serrent pas la main. Il y a des chartreux qui ne serrent pas la main des femmes, il y a des rabbins qui ne serrent pas la main des femmes, il y a toutes sortes de gens qui, d'abord les chartreux n'en voient pas, mais il y a des rabbins qui ne serrent pas la main des femmes et qui ne vont pas poser des bombes.
Mais ils n'ont jamais fait d'attentat, les rabbins. Voilà,
Précisément, c'est bien ce que j'essaie d'exprimer. L'idée François de passer en un instant... Oui. Du diagnostic d'un comportement social à la possibilité d'un acte criminel me paraît contraire à 500 ans de pensée du droit pénal. Ça me paraît proprement ahurissant. Et en plus, nous venons d'entendre, dans la bouche de Valérie Pécresse, l'idée qu'il faudrait non seulement les diagnostiquer là-dessus, mais en plus que le juge n'annule pas. Du même coup, on a supprimé le juge aussi. Bravo.
Catherine. Oui, mais alors, que vaut pour vous cette société de vigilance que recommande aux Français le président Macron? Est-ce que c'est la délation?
Alors, sur la société de vigilance...
Il va vous répondre, mais juste avant, si vous permettez, parce que je pense que c'est un point central qui est d'ailleurs très très important dans le petit livre de François Sureau dans la collection Tract chez Gallimard, Sans la liberté. C'est un point absolument essentiel. Dans des sociétés civilisées, le droit pénal, la punition ordonnée par la loi et appliquée et sanctionnée par le juge, elle ne peut être faite que si vous avez commis une infraction. Pas si vous êtes susceptible de. Parce que c'est toute la différence entre une dictature et une démocratie, entre une société de liberté et une société sans liberté.
Ce que vous dites est miel à mes oreilles. Depuis 20 ans, entre l'association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise, le délit d'entreprise individuelle terroriste. Nous sommes en train de faire sauter les unes après les autres les digues qui reviennent à ce qu'Olivier disait, qui est avant la commission de l'acte criminel, il n'y a rien. Ce qui est exprimé de manière magnifique par Simenon dans « Lettre à mon juge », par exemple, mais qui est vraiment notre procès profond, notre être profond. Ça n'est pas la peine de vouloir lutter contre l'islamisme radical ou terroriste, et c'est pour bazarder à la rivière ce qui nous constitue proprement.
D'où bon, la mais question alors, je reviens à la question, la société de vigilance, est-ce que c'est un encouragement à la délation et avec quels effets pervers cela pourrait produire?
Je vais dire à nouveau quelque chose d'assez désagréable. Il faut bien voir que je ne suis pas du tout un adepte du principe de comment on appelle ça, Godwin. Cette affaire de société de vigilance me rappelle absolument 1940. Je vais vous dire pourquoi. C'est quoi 1940 quand on lit Marc Bloch ou les historiens? C'est assez simple, l'état-major est nul, fait une manœuvre qu'il n'aurait pas dû faire, se fait enfoncer par l'état-major allemand qui est beaucoup plus compétent. Les Français se battent très très bien, il y a un très fort taux de mort. Donc la population française en 40 se bat extrêmement bien. Le gouvernement de Vichy qui arrive décide que c'est la faute de la société et pas du tout la faute de l'état-major. C'est un transfert de responsabilité dont l'élite administrative française a véritablement l'habitude. J'ai ressenti difficilement l'appel à la société de vigilance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vigilance qui tienne. Il y a juste une collection d'erreurs administratives commises à la préfecture de police et qui doivent être sanctionnées. Et il vaudrait mieux les sanctionner que d'appeler les Français à s'espionner les uns les autres. Ce transfert de responsabilité de l'élite politique sur le corps social tout entier est quelque chose qui me paraît blâmable.
Alors prenons le cas dont vous parlez. Cet homme avait dit au lendemain des attentats de Charlie que c'était très bien. Est-ce que là, il y a eu un manque de quelqu'un qui a manqué de vigilance et...
Je ne peux pas rentrer à ce point dans le détail des choses parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il a dit, on ne sait pas comment il l'a dit, à qui il a dit. Je tiens pour ma part que l'expression d'une opinion n'est pas nécessairement de nature à entraîner la révocation. C'est d'ailleurs extrêmement difficile. Bernard Cazeneuve raconte souvent que je crois qu'il a dû écarter une vingtaine de personnes radicalisées quand il était ministre de l'Intérieur. Et que ça se heurtait à des, ça se heurtait ou que ça s'accompagnait de procédures de vérification du caractère effectivement dangereux. Dans quelqu'un qui après boire dirait Charlie c'est pas bien, je trouve que ce discours est, Charlie c'est bien, je trouve que ce discours est à vomir. Mais est-ce que ça doit entraîner nécessairement des conséquences? Je suis absolument incapable de le dire. Ce qui est clair en revanche, c'est que nous assistons à un système assez étrange où d'un côté les manifestants, qui eux ne sont pas des terroristes, même s'ils sont parfois des émeutiers, sont encadrés par des forces de police équipées d'armes de guerre. Et de l'autre côté, le corps politique et administratif de la préfecture de police n'est pas capable de faire le ménage à l'intérieur de sa propre institution, qui est la nôtre, qui est celle du contribuable, qui est celle du citoyen. Et ça, cette comparaison, ce rapprochement des deux termes me paraît me poser question.
Dans votre livre, là, vous faites référence justement à ces policiers avec des armes de guerre qui encadraient une manifestation où, dites-vous, il y avait 200 personnes et que vous avez trouvé quand même cet étalement de la force un peu trop fort. Mais est-ce que ça n'est pas aujourd'hui une manif? On ne sait pas comment elle peut dégénérer. Si les Black Blocs ne vont pas arriver, est-ce que ce n'est pas un principe de précaution pour faire peur? Et pour rassurer, en tous les cas, ceux qui viennent à la manif.
Je veux dire plusieurs choses d'abord là-dessus. C'est-à-dire que, exactement comme en matière de préfecture de police ou en matière de maintien de l'ordre, et quel que soit l'abus qui a été fait d'armes de type lanceur de balles de défense, au fond, j'ai la plus grande considération pour les policiers qui font un métier extrêmement difficile dans un univers social où les principes de la civilité de base ont à peu près disparu et donc sont exposés à des débordements tout à fait considérables. Maintenant, après, ça n'est pas la question des policiers individuellement. C'est une question de commandement. Et en matière de commandement, ce qui me paraît caractéristique, c'est que les armes de guerre dont on parle, elles ne vont pas intimider seulement les Black Blocs. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les Black Blocs soient susceptibles d'être intimidés par elles, puisque précisément, ils vont avoir plutôt tendance à rechercher le contact. Ils vont intimider, en revanche, la foule des manifestants pacifiques qui, quand ils sortent dans la rue, se trouvent face à des gars qui sont équipés comme à Sarajevo. Et ça, c'est beaucoup plus ennuyeux. Pourquoi est-ce que ça se produit ? J'ai l'impression parfois que ça se produit, et ça me paraît également fâcheux, parce qu'au fond, les ministres et les gouvernements, très soucieux des conséquences fâcheuses d'un débordement policier, en fait, privent les policiers d'une capacité normale de légitime défense qui est admise dans la plupart des démocraties. Et dès lors, la seule manière d'assurer un minimum d'ordre est d'exhiber des armes de plus en plus spectaculaires. Je trouve que c'est une pente dangereuse.
Alors là, par exemple, pendant les manifestations des Gilets jaunes, il y a une séance qui nous a tous beaucoup bouleversés, c'est de voir un grand boxeur gitan, enfin c'est un peu, qui vraiment roué de coups un gendarme mobile qui était plus petit que lui, et j'ai cru qu'il allait le faire passer par-dessus la balustrade, tomber dans la Seine. Ça vous inspire quoi, ça?
Réponse dans quelques instants, puisque je suis encore là et obligé de servir au moins à lancer les petites réclames.
Europe 1. Médiapolis.
Médiapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney. Votre invité ce matin est François Sureau, avocat et écrivain qui vient de publier « Sans la liberté » aux éditions Gallimard.
Oui, monsieur Sureau, je vous avais demandé ce que vous aviez pensé en voyant cette scène inouïe de cet homme. D'ailleurs, quand on dit gitan, je ne voudrais pas faire commettre un acte raciste. Mais,
en fait, c'est votre papote, le pas gitan.
Voilà, c'est cet homme qui boxait et qui, même à terre, et le roué de coups.
Ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, comme je suis un partisan fanatique de la liberté de manifester, c'est la raison pour laquelle je trouve très bien que le Conseil constitutionnel ait annulé la partie de législation de la loi anticasseur relative au filtrage individuel des manifestants, relevant que les critères étaient tout à fait flous et absurdes. Comme je suis un partisan de la liberté de manifester, je pense aussi que la liberté de manifester ne comporte pas la liberté. D'abord, comporte pour l'État la possibilité de fixer des itinéraires aux manifestations et ne comporte pas
et
pour les manifestants.
Et même d'en interdire lorsqu'elles sont clairement contraires à l'ordre public lorsque... et après le juge intervient.
Absolument, et après le juge intervient. Donc ça, c'est notre position, c'est la nôtre depuis. Pratiquement 1920 ou 1930, je ne vois aucune raison d'en changer, et donc me paraît également contraire à la liberté de manifester, mettant en danger la liberté de manifester de tout le monde, le fait de ne pas respecter les itinéraires, a fortiori le fait de taper sur les forces de l'ordre. Je trouve ça absolument inacceptable, de même que la liberté de manifester n'est pas la liberté de l'émeute ou de lancer des boules de pétanque dans les vitrines des Champs-Élysées. Et ayant dit ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai été vivement choqué par cette attitude consistant à boxer le gendarme, et encore plus choqué par l'approbation néo-romantique et un tout petit peu infantile que ça suscitait chez de nombreuses personnes. Parce qu'en réalité, on voit bien que ce qui est en cause là, c'est la justification de restrictions de plus en plus importantes à la liberté de manifester, dont le gouvernement va nécessairement se saisir, et dont il s'est saisi d'ailleurs en l'espèce, et qui vont nous faire rentrer dans un ordre de choses assez peu sympathique. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que je me suis demandé, mais je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, hein, du tout, je me suis demandé si ceci ne provenait pas des consignes données aux forces de l'ordre de se laisser taper sans trop riposter, au moins jusqu'à un certain point, de crainte d'un dérapage et de quelque chose qui pourrait porter préjudice à la carrière politique de ceux qui les commandent. Et ça, j'ai trouvé ça assez frappant, parce que je pense que dans un pays aux États-Unis, dans la plupart des pays européens...
On ne va pas tout faire sur
mais non, mais on termine là.
Dans la plupart des pays européens, un type qui aurait boxé le gendarme, on aurait subi, je pense...
Mais je voudrais qu'on en revienne, moi, à cette semaine, parce qu'il me semble, après la lecture de votre opuscule, c'est parce qu'il est petit, je peux l'appeler
opuscule. Il est petit, c'est un opuscule, un pamphlet.
Voilà. Je me suis dit que si vous l'aviez écrit... aujourd'hui, samedi, c'est-à-dire après la semaine qu'on vient d'écouler, ça aurait été encore plus polémique, parce que on a l'impression d'avoir entendu quand même des choses absolument terrifiantes cette semaine dans les propositions faites de lutte contre l'islamisme terroriste. On a l'impression que plus personne, quand il se produit un attentat, plus personne ne se pose la question jusqu'où peut-on aller dans les mesures qu'on va prendre sans toucher aux libertés fondamentales. C'est une question qui n'existe même plus, et qu'on y va à volo, avec des propositions aussi insensées que licencier sous un simple soupçon, interdire le salafisme, ça veut dire interdire le salafisme, on n'interdit pas une doctrine. Quoi d'autre? Dénoncer quelqu'un parce qu'il se laisse pousser la barbe, enfin ça devient insensé dans la course qui sera le plus liberticide.
Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a une espèce de vous avez entièrement raison, je trouve qu'il y a une espèce de concours Lépine délirant de la répression. Il y a en plus un oubli absolument fondamental de ce que nous sommes, parce que notre système a été pensé pour permettre une répression extrêmement dure, y compris des actes terroristes, sans pour autant s'écarter des principes. Je veux dire, on peut tout à fait trouver... des juges antiterroristes pour signer des mandats, on a tout à fait les moyens d'arrêter les gens. Enfin, je veux dire, ça n'est pas comme si nous vivions dans un droit pénal de bisounours. Notre droit pénal est extrêmement sévère, extrêmement répressif. Il n'y a pas besoin de rien y ajouter. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on y ajoute quelque chose? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire, la première raison, c'est que je pense que ce à quoi vous faisiez référence, qui est cette idée que notre esprit doit sans cesse nous conduire à nous demander quelles sont les mesures acceptables qui puissent assurer la sûreté sans détruire les libertés publiques, cet état d'esprit a à peu près disparu de l'esprit de tout le monde. À la fin, il se trouve les 9 sages du Conseil constitutionnel qui, de temps en temps, retoquent une mesure. Mais avant ça, il n'y a absolument plus rien. Et ceci me paraît extrêmement dangereux. La deuxième raison, je crois, c'est aussi un déséquilibre institutionnel. Je parlais de Cazeneuve, j'ai lu le premier tome de ses mémoires, c'est très intéressant. On se rend compte qu'au moment des attentats terroristes, en fait, la totalité de cette question dont vous parliez, l'arbitrage sécurité et liberté, en fait, passe dans la cervelle du ministre de l'Intérieur et de lui seul. Comme s'il n'y avait pas de garde des Sceaux, comme s'il n'y avait pas de commission des lois, comme s'il n'y avait pas de parlement, comme s'il n'y avait personne. Et ça, c'est extrêmement gênant et c'est probablement une conséquence de l'évolution institutionnelle de la Ve République. Puis il y a une troisième raison qui me paraît absolument frappante, c'est que nous sommes une société qui est devenue incapable de supporter la présence du mal en elle-même. Le mal doit être extérieur, il doit être étranger, il doit être éradiqué sans qu'on regarde d'aucune manière aux principes qui peuvent gouverner les procédures de son éradication. Le mal est quelque chose que nous ne pouvons plus penser. Nous n'avons plus d'idée du salut individuel, nous n'avons plus d'idée du progrès politique. Le mal doit être éloigné de nous. Et tout ce qu'on voit en matière de concours Lépine, tout comme la rétention de sûreté, tout comme la déchéance de nationalité, manifeste cette idée que nous allons expulser le mal car nous sommes des purs. Ceci m'inquiète énormément.
Alors nous reviendrons en fin d'émission sur ce recul des libertés et surtout le moyen d'essayer d'y remédier un peu. En attendant, toutes les chaînes infos sont en émission spéciale sur l'Europe et le renvoi, le refus de Sylvie Goulard, qui est un événement considérable et pour la France et pour l'Europe. Non, c'est une blague. Les chaînes infos sont toutes encore sur cette histoire de Ligonnès, alors qu'on ne sait même pas s'il s'agit de lui. C'est quand même une conception de la hiérarchie des importances qui ne cessera de me surprendre. Nous allons en parler de ce camouflet adressé à Sylvie Goulard, aux libéraux européens, à Emmanuel Macron et à la France. Dans quelques instants.
Europe 1, Mediapolis.
Jusqu'à 11h sur Europe 1, vous écoutez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Olivier et Catherine qui sont accompagnés ce matin par l'avocat et écrivain François Sureau.
Donc, pas mal d'événements importants en Europe. Au milieu de la semaine, donc, le refus, en début de semaine, le refus de la part des parlementaires européens d'accepter la nomination de Sylvie Goulard comme commissaire européenne avec un poste qui était prévu comme extrêmement important dans l'étendue des compétences qui lui était réservé. Ce qui me frappe, c'est que, d'une part, le président de la République n'a pas vu venir, c'est-à-dire qu'il n'a pas saisi comment fonctionnait l'Europe, ce qui fait qu'il a une curieuse façon de réagir.
La présidente von der Leyen m'a dit « Moi, je veux travailler avec Sylvie Goulard. » Moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission nommée, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc, j'ai besoin de comprendre. Voilà. Mais je sais pas, parce que là, je comprends pas. Donc moi, je suis très détendu, ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre.
C'était jeudi, lors de son déplacement à Lyon. Donc, on peut faire un cours de executive education, comme on dit, de formation continue à Sciences Po pour Emmanuel Macron, et lui apprendre que quand un président de groupe dit qu'il soutiendra quelqu'un, mais que de ce même président de groupe, vous avez dit que vous ne vouliez à aucun prix comme président de la commission, et que votre Nathalie Loiseau a dit que c'était un ectoplasme et tout, le risque qu'il se venge est quand même assez élevé. Ce qui me frappe du point de vue média politique, c'est que la seule explication qui a été donnée, c'était... une baffe à Macron désavoué, c'est parce que Macron a été trop interventionniste, etc. etc. Oui. Alors qu'en vérité, Mais bien sûr.
Je veux dire, Macron, il a pensé qu'il allait faire exploser au Parlement européen le système comme il l'a fait en France. D'abord, il a imposé von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Il a forcé Merkel à la soutenir, alors que d'habitude, ça se passait, c'était chaque parti présentait un candidat. Donc, Madame Merkel aurait dû présenter Martin Weber, le patron Manfred Weber, le patron du PPE, qui est peut-être un ectoplasme, mais en tous les cas, qui aurait dû être élu à sa place. Donc, ça crée beaucoup de tensions. Et Macron a pensé qu'il allait reconstituer au sein du Parlement européen, avec son groupe, une sorte de partis pivots qui un peu distribueraient les cartes et qui auraient le pouvoir.
Il
s'est complètement trompé. C'est une méconnaissance du rapport des forces du Parlement européen. Il n'a pas vu les choses.
Vous avez raison, mais ça n'est pas la seule explication. Excusez-moi. Pour qu'on ait osé refuser Sylvie Goulard, il fallait une conjonction de facteurs.
Mais bien sûr, il y a plusieurs...
Il fallait tout ce que vous avez dit.
et qui a beaucoup compté aussi.
Les commentateurs politiques, parce que ça, ce sont des appréciations politiques. Mais il y a aussi, et pour ça, il faut connaître un peu plus le fonctionnement du Parlement européen, ce qui n'est pas le cas de 99% de nos journalistes
politiques. Mais vous étiez élu européen.
Oui, mais, et puis je travaille surtout, à la différence d'autres. Mais, mais pas de vous. Vous, vous travaillez. Mais justement, on n'est pas tellement nombreux. Alors, mais ce n'est pas le sujet, encore que. Il fallait aussi qu'on ait refusé au PPE, au PSE, à chacun des deux un commissaire.
Les Roumains et, les Hongrois.
Voilà, et que donc on ait envie de se venger.
Et ça, ça a été absolument.
Et puis il fallait encore...
Et le rôle des députés macronistes pour empêcher les Hongrois d'avoir des postes, même subalternes, dans les 22 commissions, avec ces journées, le député macroniste qui se vantait d'avoir eu la peau du commissaire hongrois.
Quand je vous dis que Catherine Ney bosse, et il fallait encore que Sylvie Goulard rate ses auditions comme elle l'a raté, d'une manière très très française d'ailleurs. Elle les a ratées à la Valéry Giscard d'Estaing, à l'arrogance, à se donner ce sentiment d'être très supérieur aux autres. Et ça a été un facteur décisif. Si elle avait mieux réussi ses auditions, elle aurait pu se préparer.
Mais elle ne pouvait pas réussir ses
auditions. Et enfin, sur le dernier point, et là, François Sureau qui m'a dit qu'il ne connaissait rien au sujet, ce qui est rarissime chez François Sureau.
Mais qu'il lève le doigt comme
fréquent, je lève le doigt comme à l'école.
Et là, il va quand même avoir quelque chose à dire, c'est que le cinquième facteur, je ne sais plus si j'en étais au quatrième ou au cinquième, c'est la montée de l'idéologie scandinave et protestante, dirait Régis Debray, non sans raison, de la pureté, de l'irréprochable, et que donc on lui reprochait les emplois fictifs d'une partie des assistants qu'elle avait eus, et d'avoir été payé, et très bien payé, par un think tank américain, qui était légal, mais néanmoins ne plaisait pas. Alors sur cet aspect-là, alors, sur la montée du protestantisme
pur et dur...
Ne
disons pas trop de mal du protestantisme, qui est... personnellement, je suis plutôt un latin, mais enfin,
alors,
quand
du scandinavisme.
Oui, parce que je le reconnais quand même, l'importance du primat de la conscience dans le développement d'un certain nombre de choses, y compris des choses auxquelles vous et moi sommes communément attachés.
J'ai repéré donc que vous étiez un catholique protestant. Alors, exactement. Du scandinavisme.
Non, c'est pas tellement scandinavisme. Moi, ce qui me frappe, c'est d'avoir assisté à votre conversation. Parce que, en fait, je suis dans la situation du président Macron, après vous avoir entendu. Je n'y comprends rien.
Et c'est très, pas très grave, ennuyeux. Vous n'êtes pas président de la République et mais c'est non. Pas vous qui allez choisir
le prochain
commissaire.
Bah, précisément, c'est emmerdant quand même, parce que je pense qu'on ne peut pas à la fois défendre l'idée européenne à laquelle je suis comme des tas de gens immensément attaché, et se trouver à écouter une conversation dans laquelle on a l'impression qu'il s'agit au fond de faire des compositions de postes multinationales qui décalqueraient un peu ce qu'on faisait sous la 4ème République en encore plus compliqué, sans voir derrière les idées qui sont à l'œuvre. À force d'avoir 4 discussions comme celles qu'on vient d'avoir là à l'instant, sans être désagréable à votre égard, naturellement,
mais
nous allons finir par dégoûter tout le monde de l'idée européenne. On a l'impression qu'il s'agit de trucs...
Mais pas du tout. On essaye d'expliquer qu'il y a des logiques politiques.
Il y a des logiques. C'est un parlement.
Elles existent partout. Elles existent même chez vous dans vos boulots d'avocat. Elles existent dans vos maisons d'édition.
C'est sûr.
Vous êtes là à faire le démagogue, à dire
mais
vous allez dégoûter tout le monde.
Je ne fais pas le démagogue le moins du monde. Vous n'avez pas exprimé la queue d'une idée. Derrière une question de personne, pas la queue d'une idée. Je ne sais pas les idées que Mme Goulard défend, personne ne sait les idées que Mme von der machin défend.
Eh bien, il fallait assister aux auditions, elles étaient transmises en direct et elle les a exprimées.
Mais
nous, on a expliqué les logiques politiques de
l'échec. Ne vous plaignez pas que les gens veulent sortir, pas du tout. Ne vous plaignez pas que les gens veulent sortir de l'Europe tant que le spectacle qui est donné est celui d'arrangements institutionnels qui sont apparemment sans rapport avec la politique.
Et pendant ce temps-là, Trump, un peu dans votre lignée, dans la démagogie. Trump, dans quelques instants.
Okay.
Europe 1. Mediapolis.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney, jusqu'à 11h dans Mediapolis. Aujourd'hui, vous recevez tous les deux François Sureau, avocat et écrivain, qui vient de sortir aux éditions Gallimard, Sans la liberté.
Alors, François Sureau repérait les motifs d'être dégoûté de la politique et, par pure provocation, arranger la discussion que j'ai eue avec Catherine Ney dans cette catégorie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire sur Donald Trump? Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement à l'Institut Montaigne, nous signale un article du New York Times d'avant-hier qui rend compte d'un reportage sur un meeting que Trump a fait à Minneapolis. Le président Trump, très énervé depuis la procédure d'impeachment, dit l'article, s'est attaqué aux démocrates dans la ville de Minneapolis, les qualifiant de personnes très malades et dérangées. Il a surtout attaqué le vice-président Biden, le traitant de faillot avec Barack Obama, he was only a good vice president because he knew how to kiss Barack Obama's ass. Je ne sais pas si vous voyez, si vous comprenez pas l'anglais, il a été un vice-président parce qu'il a passé son temps à lécher le cul d'Obama. C'est un président des États-Unis qui dit ça. Ensuite, il a lancé des insultes au sujet des agents du FBI, des législateurs, des journalistes qu'il cherche. Il a mentionné le maire démocrate de la ville de Minneapolis en disant « vous avez un maire pourri », etc., etc. Il a expliqué que les journalistes, c'était de la merde. Il a expliqué que les sondeurs faisaient exprès de publier des faux sondages parce qu'il se trouve que l'opinion s'est retournée sur la question de l'impeachment, qu'elle était majoritairement très, très opposée à ce que la procédure soit engagée et qu'après une semaine de Trumperie, c'est l'inverse qui est devenu majoritaire. Donc il dit que les sondeurs... C'est hallucinant. Comment est-ce que... Vous expliquez que ça marche si bien, François Sureau.
D'abord, je dois dire que ça paraît très personnel comme remarque, mais c'est une souffrance pour les gens qui aiment beaucoup l'Amérique. Moi, je fais partie des Français qui aiment beaucoup l'Amérique, qui aiment Mark Twain, Jefferson, Hamilton, pour lequel l'Amérique représente, enfin les États-Unis d'Amérique représentent véritablement quelque chose de considérable, y compris dans la lecture des opinions dissidentes de la Cour suprême, y compris dans cette manière d'aborder les questions de principe, ce que nos juges font assez rarement sur le plan constitutionnel. Et vraiment, moi, je fais partie des Français qui se sont nourris de l'Amérique, qui n'ont pas du tout une once qui ont des réserves à l'égard de parties de leur histoire, comme à l'égard de la nôtre, bien sûr, mais qui sont vraiment... Et je dois dire que pour les amis de l'Amérique, la présence de Trump à la tête des États-Unis est véritablement quelque chose de profondément dérangeant. Alors, comment ça s'explique que, c'est très très difficile à dire, je suis certainement pas le mieux placé pour le dire. Ce qui me frappe quand même dans ce qu'on appelle le populisme, là, la Trump, le populisme italien, le populisme français, etc., c'est que c'est aussi peut-être une conséquence de la carence des élites technocratiques auxquelles j'ai appartenu, à présenter au peuple des options qui soient à la fois convenables, politiquement fondée et suffisamment entraînante sur le plan presque sentimental, c'est-à-dire ce que réussissaient à faire les gens, quoi, globalement, jusqu'à De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, à présenter, à tenir à la fois d'une main le sérieux et de l'autre le degré d'enthousiasme qu'il faut pour entraîner les gens dans une direction politique particulière. J'ai parfois l'impression que le camp convenable, duquel je me réclame, présente exclusivement le sérieux, pas la capacité d'entraînement, et que donc la capacité d'entraînement se retrouve totalement projetée du côté du délire. Et je trouve ça très inquiétant, mais je trouve que le « en dire du mal » de Trump et de ses épigones ne suffit pas, et qu'il nous faudrait retrouver, nous aussi, une certaine forme de sérieux et de capacité d'entraînement ensemble.
Je vais du coup vous taquiner au passage. C'est vrai que dans la dernière présidentielle, par rapport à la capacité d'entraînement, vous avez conseillé à la fois Macron et Fillon, ou c'est pas vrai ?
Non, c'est peut-être tout à fait inexact. D'abord, j'ai conseillé personne, je suis absolument incapable de donner des conseils à quiconque. En revanche...
À vous-même, quand même.
Mais peut-être ouais. Vous en demande-t-on ?
En revanche, j'ai aidé... Alors, ça, c'est une question fondamentale. Je me suis pas mêlé de la campagne jusqu'au moment où François Fillon a fait l'objet d'une procédure dirigée par le Parquet National Financier qui soulevait en moi des objections constitutionnelles véritablement sérieuses. Donc, quand il m'a demandé... De l'aider, je l'ai aidé à composer sa défense et je lui ai dit ce que j'en pensais, tout en maintenant par ailleurs, et j'ai dit publiquement à plusieurs reprises que le programme qu'il défendait était à peu près aux antipodes de mes idées politiques sur des sujets auxquels je tiens particulièrement, alors, comme l'immigration ou les libertés.
Merci. Revenons à Trump, Catherine Ney.
Oui, là, cette incandescence et cette vulgarité qui sont effrayantes. Moi, ce qui m'a encore plus effrayée, c'est qu'il vient de tenir un meeting, je crois, à Minneapolis, où on a entendu des participants qui disaient « mais si on touche à Macron, s'il s'en va, moi, je sors mes armes ». Vous voyez, donc, il peut créer un climat de guerre civile aux États-Unis.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre le fait que quand quelqu'un viole toutes les règles de la civilité, pour reprendre un mot qui vous est cher, de la bienséance, du respect de l'autre, du respect de la vérité factuelle élémentaire, au lieu de lui nuire, ça lui profite ? Est-ce que c'est un nouveau monde de la déraison généralisée et qu'il faut rendre les armes parce qu'il n'y a pas de solution ?
On voit ça d'ailleurs à une toute petite échelle en France, c'est-à-dire
Attendez, j'ai complètement oublié autre chose. Dans quelques instants, parce que on a une dernière petite interruption.
Europe 1, Mediapolis.
L'avocat et écrivain François Sureau est votre invité ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Et dans la dernière partie de notre émission, le plus difficile, mais quand même le plus nécessaire, aussi bien par rapport à ce qu'on vient de dire sur Trump, et puis par extension ensuite sur l'indifférence aux libertés et du coup le recul des libertés, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un cours plus positif?
C'est très difficile parce que en fait, ce qui se passe, c'est presque une question de comment dire, c'est presque une question d'éducation civique dans le sens profond. D'abord, je pense qu'on devrait retrouver l'amour de la liberté, même au prix d'un certain désordre. Je pense qu'il y a un moment où il faut avoir le courage d'aborder franchement cette question. Il faut que nous voyions, que nous retrouvions cette idée qui est la nôtre, que la liberté nous constitue, que la liberté nous rend vivants, que la liberté nous a fait progresser dans l'histoire, au prix parfois de l'émeute, de la révolution et même de la guerre civile. Il faut que nous le retrouvions, c'est ça notre identité. Nous ne sommes pas des Aztèques à craindre les forces du chaos, nous ne sommes pas des Chinois qui sommes prêts à être encadrés en permanence par la police politique.
Votre proposition ?
Je ne sais pas que c'est vendable, je dis que au fond, je suis évidemment favorable à ce qu'on poursuive les auteurs de désordre après qu'ils aient commis des désordres, mais je ne veux pas qu'on excipe de l'idée de désordre pour tout interdire, parce que je sais que nous ne sommes pas faits.
Mais brûler
nous
le Fouquet régulièrement, ça c'est...
Mais bien sûr que si, mais simplement alors, ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'on court le risque de brûler le Fouquet qu'on peut interdire à l'avance toute manifestation. Sans ça, en effet...
Je dis le Fouquet, que... mais combien d'autres magasins mais
c'est très bien, et ensuite on retrouve les auteurs... Mais c'est comme si vous... ça revient à dire à peu de choses près que la sécurité est la première des libertés, ce qui veut dire que le pays le plus libre était au fond le Moscou de Staline, où il ne se commettait à peu près aucun crime. Donc il s'agit de savoir ce qui nous constitue dans l'histoire. Ça, c'est le premier point. Il y a ensuite une deuxième chose à faire, une deuxième distinction à faire, c'est qu'il faut distinguer les libertés fondamentales des modes d'organisation sociale. La liberté de penser, la liberté d'aller et venir, la liberté de publier, d'exprimer, la liberté de la presse. Rien, mais rien ne peut aboutir à les limiter. En revanche...
Même pas l'appel à la violence raciale
Bien sûr, l'appel à la violence raciale, qui est d'ailleurs cantonné par les juges dans des limites raisonnablement acceptables.
De moins en moins. On condamne Marine Le Pen parce qu'elle a mis sur son site une image de décapitation qu'à l'évidence elle désapprouvait,
je suis d'accord.
On va trop loin dans le contrôle.
Mais il faut être très vigilant là-dessus, ces libertés qui sont inhérentes à la nature humaine, ces libertés doivent être absolument protégées. Après, il y a des phénomènes d'organisation sociale. On peut interdire une manifestation, on peut se déclarer pour ou pas telle avancée sociologique ou non sur la GPA-PMA, on peut décider de fermer l'immigration ou de l'ouvrir. Ce sont des questions d'organisation sociale, mais il faut en revenir à cette idée fondamentale qu'il y a une liberté qui nous constitue en qualité de sujet dans l'histoire. Puis il y a une troisième chose qui me paraît très importante, c'est qu'il y a quand même un rapport entre la défense des libertés, et c'est pas vous, je vais dire ça, Olivier, mais l'ordre institutionnel. La liberté va avec la démocratie représentative. La démocratie représentative a été tuée par le quinquennat, en réalité. En réalité, vous voyez bien que pendant...
C'est le bouc émissaire, le mandat, mais en France, ça a eu trop assez trop long, sinon.
Ou quelque chose d'autre.
Là, parce vous touchez un point sensible,
pendant pendant 5 ans, en réalité, on voit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de véritable contre-pouvoir. Pendant 5 ans, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de perspective de cohabitation, rien ne se passe, il ne reste que le Conseil constitutionnel pour dire ce qui est acceptable ou pas. Ceci entraîne un déséquilibre profond, et au fond... une pente au clivage, à la démagogie, aux propos excessifs, à l'incivilité.
Parce que les vrais lieux de pouvoir sont devenus ailleurs et qu'on n'a pas pensé leur bonne manière de faire. Je ne veux pas dire de réglementer, je veux dire même dans la critique sociale. Ce matin, j'ai critiqué beaucoup au fil de petites pastilles comme ça, les chaînes infos sur Ligonnès. Pourquoi est-ce qu'elle continue sur Ligonnès? Elle pourrait arrêter. Pourquoi est-ce qu'elle continue? Par une logique de système. Croyant que c'était un événement considérable hier, ils travaillent toute la nuit, ils envoient des gens partout, il y a un envoyé à Glasgow, il y a un autre à Nantes, le troisième où était sa maison. Une fois que vous avez des journalistes partout là-bas, vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous êtes obligé de faire bouliner la machine. Je prends exprès cet exemple parce qu'il n'est pas dangereux, il ne provoque pas lui-même du populisme, du racisme, de la connerie. Donc je prends exprès un exemple neutre. Mais la même chose se passe quand vous avez les gilets jaunes et que c'est devenu une espèce de grossissement considérable du mouvement par la logique des chaînes infos et des réseaux sociaux.
Oui, ils sont là,
et c'est la même chose avec Zemmour, parce qu'on passe Zemmour, parce que c'est fort, ça prend, ça fait l'autre. Et puis une fois qu'on y est, qu'on a mis les équipes et tout, on ne va pas le couper au milieu. Et puis derrière, on a... Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez avec le système de l'information continue, les réseaux sociaux et un alignement partiel des autres médias sur ce système pour continuer à exister, vous êtes dans des logiques de pouvoir absolument inédites qui n'ont rien à voir avec les prescriptions constitutionnelles, qui ne sont ni pensées, ni critiquées.
C'est juste, ce que je pense simplement, c'est que nous sommes dans une situation extrêmement difficile où, au fond, nous voyons une sorte de civilité républicaine et démocratique se défaire sous nos yeux. Par l'émeute, par les communautarismes, par la revendication d'une société universelle des droits, opposée des droits des uns, opposée des droits des autres. Ce que je veux dire simplement, c'est que le contrôle social ne me paraît pas être le moyen de sortir de ce drame.
Alors, ouais. Le moyen d'en sortir un petit peu, c'est aussi, Catherine Ney, la musique et la chanson que nous dédions.
Je voulais citer François Giroud qui disait que les Français, dans le fond, la liberté, ça ne les intéressait pas tellement et que s'il fallait refaire le fronton, les frontons des mairies, il faudrait mettre liberté, liberté, égalité, 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 non plus liberté, égalité, fraternité.
D'où la chanson « Ma liberté ».
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. Comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble.
Texte Georges Moustaki, interprète Serge Reggiani, 1967. Ma liberté, c'était le cadeau final pour François Sureau et pour tous nos auditeurs. Écoutez, faites réécouter François Sureau et Catherine Ney sur Europe1.fr en podcast. C'était une émission très vivante et qui va passionner vos amis. Et puis maintenant, c'est l'ami Mariotte.
Eh oui, comme chaque samedi, il est bientôt l'heure de s'installer à la table des bons vivants. Bonjour Laurent.
Merci Catherine et Olivier. Bonjour Justine. Alors vous le savez, hein, les chefs cuisiniers nous aident souvent à bien manger. Nous en parlerons ce samedi avec un dossier sur les chefs engagés pour une gastronomie responsable. Et puis nous partagerons le plat du jour avec le musicien Manu Dibongo, sans oublier les produits de saison. Voilà, vous savez tout. À tout de suite Justine.
À tout de suite Laurent.